Le feuilleton d'Ulysse par Muriel Exac, la mythologie grecque en 100 épisodes. Soixante-et-unième épisode, où un petit garçon s'échappe. Résumé de l'épisode précédent, Agamemnon approche de Mycène, sa ville. Cassandre lui a prédit sa mort s'il y entre, mais il ne l'a pas écouté. Pourtant, sur place, une femme l'attend, pleine de haine. C'est la reine Clytemnestre. Comme il était beau et épais le tapis rouge que Clytemnestre déroulait sous les pas de son époux pour l'accueillir. Comme elle donnait des signes d'affection et de joie de voir Agamemnon de retour au palais, le chef victorieux en fut flatté. Il se délectait des hurrahs des Mycéniens venus l'attendre. Il se réjouissait du festin dont il apercevait les préparatifs. Un parfum de viande grillée, d'herbes aromatiques et de miel emplissait les narines. Ulysse en avait l'eau à la bouche. Il s'était posté de façon à pouvoir observer l'arrivée du roi sans être vu. Hermès riait sous cape. Quelle comédienne, cette Clytemnestre! Regarde-la jouer la femme ravie du retour de son époux. Même moi qui suis le dieu des menteurs, je la trouve parfaite. Ulysse, surpris, demanda : Mais pourquoi doutes-tu de sa sincérité ? Hermès regarda Ulysse, presque apitoyé. Malgré tes ruses, tu es un grand naïf, toi. Tu ne vois rien ? Mais observe les nobles de la cour. Tu aperçois cet homme au crâne dégarni et à la barbe courte. Il s'appelle Égiste. Ulysse fit signe que oui. L'homme aux crâves chauves était bien plus jeune qu'Agamemnon. Ulysse le dévisageait fixement, attendant qu'Hermès lui donne des éclaircissements. Au lieu de s'expliquer, le dieu l'entraîna dans les couloirs du palais jusqu'à une porte dérobée. Celle-ci menait à une petite terrasse déserte. De là, la vue plongeait sur une autre terrasse plus vaste qui donnait directement sur les appartements de la reine Clytemnestre. En bas, la foule des Mycéniens continuait à acclamer son roi. Agamemnon, charmé par cet accueil, entra dans le palais. Ulysse aperçut les esclaves troyennes sur les marches du palais, Cassandre à leur tête. Elle était terrifiée et ne parvenait pas à franchir le seuil. Clytemnestre lui jeta un regard méprisant. Cassandre espérait un peu d'aide de la part d'Agamemnon, mais fidèle à lui-même, il ne s'occupait de personne d'autre que lui. Alors, elle renonça à lutter et pénétra dans ce palais dont elle savait qu'il serait son tombeau. Aussitôt chez lui, Agamemnon suivit sa femme qui le conduisit dans ses appartements personnels. De leur porte d'observation, Ulysse et Hermès ne perdaient pas une miette de ce qui se passait dans ces pièces. Ils entendirent le roi renvoyer les gardes et les servantes et donner l'ordre qu'on ne les dérange sous aucun prétexte. Clytemnestre s'approcha d'Agamemnon et l'aida gentiment à ôter son armure. Tout près de la fenêtre, on devinait la forme d'une grande baignoire dans laquelle de l'eau fumait. « Entre dans ce bain, mon mari bien-aimé, » dit la reine. « Cela te reposera des fatigues d'un si long voyage. » Agamemnon se glissa dans l'eau chaude, heureux et béat. « Je reviens, » ajouta-t-elle de son ton toujours aussi joyeux, et elle quitta la pièce. À cet instant, un jeune garçon arriva en courant sur la terrasse où les deux faux marchands se dissimulaient. D'immenses yeux occupaient tout son visage, comme deux lacs souterrains très profonds. Ses cheveux coupés courts laissaient des mèches rebelles se dresser, vestiges de ses boucles de petit enfant. Des boucles sombres avec des reflets presque roux. Il cria « Nanaé, laisse-moi jouer encore !» Presque au même moment, une femme avait surgi derrière lui. Elle s'immobilisa, prise de frayeur, en découvrant Ulysse et Hermès. Aussitôt, Hermès mit un doigt sur ses lèvres. Le garçon fronçait les sourcils, mais s'était tu. Bizarrement, quelque chose empêchait la femme de crier. On aurait dit qu'elle cherchait aussi à se cacher, ou tout du moins qu'elle ne souhaitait pas être vue sur cette terrasse. Elle profita de l'effet de surprise pour attraper le garçon et lui mettre la main sur la bouche. Ulysse remarqua qu'elle portait un gros sac sur l'épaule. « Au reste, » chuchota-t-elle, « je te rappelle qu'une surprise t'attend si tu me suis vite et sans faire de bruit. » Le jeune Oreste avait trop envie de découvrir quelle était la surprise que sa nourrice lui promettait depuis le matin. Celle-ci supplia les deux hommes du regard. Elle murmura très vite. Personne n'aime cet enfant ici, pas même sa mère. J'ai surpris une conversation. Un complot se trame. Je sais qu'il court un grand danger. Hermès fit un signe de connivence pour montrer que toutes ses explications étaient inutiles et qu'il ne la dénoncerait pas. Alors elle jeta un œil sur les sentinelles postées en bas à l'entrée du palais, puis se dirigea vers le bord opposé de la terrasse. Le palais était adossé à la muraille qui entourait la ville. De ce côté-là, la terrasse plongeait directement sur la muraille, un petit muret la bordait. La nourrice l'enjamba et saisit une échelle de corde qui y était accrochée. Elle fit signe au reste de descendre le long de cette échelle, puis se glissa à sa suite. L'enfant et sa nourrice se retrouvèrent rapidement au sol. Là, des chevaux sellés les attendaient. Quelques secondes plus tard, l'écho lointain de leurs sabots disparaissait dans la nuit. Ulysse regarda les étoiles s'allumer une à une, l'air était pur, de cristal. Cette nuit d'hiver semblait si belle. Pourtant, c'était bien le fils d'Agamemnon et de Clytemnestre que sa nourrice venait, sous ses yeux, de faire fuir aussi étrangement de Mycène. À quel redoutable danger essayait-elle de le soustraire ainsi? À suivre. Prochain épisode où l'on assiste à une terrible vengeance.